clôture samedi dernier à Paris en France du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Parmi les recommandations, le président français François Hollande a notamment déclaré que l'Afrique doit assurer sa propre sécurité en mettant en place une force d'intervention rapide. Il ajoute que la France s'engage ainsi à former 20 000 soldats africains chaque année. Quelle lecture faire de la proposition de François Hollande? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, nous recevons trois invités. Maître Jean Bouyou, cadre de la majorité présidentielle et ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Maître Mbouyou, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Jacques Joly, sénateur de l'opposition et vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Professeur Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Jacques Wondo, analyste politique et expert en questions militaires. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Monsieur Wondo, bonsoir.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Merci de nous recevoir chez vous, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique s'est clôturé samedi dernier à Paris en France. Pendant deux jours, cette rencontre a réuni plus d'une cinquantaine de chefs d'État et des gouvernements africains, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies et plusieurs autres personnalités internationales. La synthèse de ce sommet avec vous, Paul Matendo.
La clôture de ce sommet a été marquée par une conférence de presse animée conjointement par le président hôte François Hollande, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, les présidents tanzaniens, les présidents sénégalais ainsi que le président de l'Union Européenne. Dans son intervention, le président français a souligné que trois axes ont retenu l'attention des participants. Le premier est relatif à la sécurité. Sur ce plan, François Hollande a dit que l'Afrique doit assurer sa propre sécurité. L'objectif est de mettre en place une force d'intervention rapide qui sera soutenue dans le domaine de la formation, de l'encadrement et de la logistique militaire. La France s'engage à former 20 000 soldats africains chaque année. Le second axe concerne le développement et les partenariats économiques. François Hollande affirme que son pays va doubler son aide économique avec l'appui de l'Union européenne. La réduction du réchauffement climatique a constitué le troisième volet de cette conférence de presse. À ce sujet, il a dit que tous les moyens seront mis en œuvre pour soutenir les pays africains dans leurs efforts contre la désertification et les risque de disparition de la faune et de la flore.
Merci Paul Matendo. Maître Jean Bouyou, je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle et ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Maître, pour commencer, parlons des considérations générales. L'organisation de ce sommet ne fait-elle pas renaître la France-Afrique de ses cendres?
Quelque peu, hein. J'ai pensé à ce réveil, mais j'étais aussi impressionné par le nombre de participants, les chefs d'État qui ont répondu à ce rendez-vous, où s'est ajouté également le secrétaire général des Nations Unies et même l'Union Européenne. Donc finalement, il y a quand même un élargissement. C'est un peu différent. Autrefois, c'était vraiment ce qu'on appelait la France-Afrique ou le sommet France-Afrique. Mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus large. Et en plus, des Nations Unies, il y a l'Union Européenne, on dirait qu'il y a une sorte de concertation internationale autour de l'Afrique, et je crois que ça correspond plus ou moins au dernier développement de l'Afrique en matière de sécurité les dernières années.
Alors il y a Jean Moulimbi de Kisangani en province orientale, maître, qui demande sur quelle base juridique la France a-t-elle organisé ce sommet, l'OUA, la SADC, l'UMOA, la CEAC, la CPGL, n'ont-elles pas des moyens elles aussi pour convoquer ce genre de forum?
Oui, je crois qu'il y a d'abord au niveau de l'Union africaine, beaucoup de réunions qui sont déroulées autour de ce thème de sécurité. Mais en ce qui concerne le droit international pur, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une disposition particulière pour qu'un pays ou une organisation invite un ensemble de pays ou d'organisations à faire une réunion. Il suffit d'évaluer cela au niveau finalement de la participation des États qui ont été appelés à y être présents. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude à se demander quelle est la base juridique la base fondamentale dans le cadre des Nations Unies, c'est la recherche de la paix, parce que c'est la raison d'être même de l'Organisation des Nations Unies. Et pour ça, chacun est appelé à concourir. Quant à ce qui concerne l'effectivité, c'est-à-dire la réalité d'une réponse à une invitation, cette fois-ci, nous pouvons dire que tout le monde a trouvé la question importante et pertinente, et l'affluence des répondants a impressionné.
Alors, Maître, ce sommet a également fait allusion, à part la sécurité, il y avait le climat et l'économie également qui ont figuré au programme. Juste un mot avant que l'on aborde l'aspect sécuritaire.
Oui, l'économie, il fallait vraiment que, disons, il faut pas penser autrement. Je crois que les États, c'est les intérêts et c'est pas tellement l'amitié. Donc je dois penser que la question économique devait être au cœur des organisateurs, puisque l'Europe aussi, tout comme l'Occident, a observé ces dernières années une récession qui l'oblige à changer de stratégie de partenariat international. Je crois que ça, c'est important. En ce qui concerne le réchauffement climatique, c'est aussi un thème de pointe, et le Congo est prioritairement engagé dans une solution de sauver la communauté internationale avec sa réserve forestière qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de conférences. Donc, de ce point de vue, qu'on ait ajouté à cette question sécuritaire les questions économiques et de réchauffement, il est difficile de penser autrement qu'un tel sommet se soit tenu sans qu'on aborde ces aspects-là.
Professeur Jacques Joly, vous êtes sénateur de l'opposition et vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. La même question, les mêmes questions qu'à Maître Mbouyou. Ce sommet ne confirme-t-il pas la France dans son rôle de gendarme de l'Afrique?
Oui, je vous écoute.
Je disais, professeur, que ces sommets ne confirmaient-ils pas la France dans son rôle de gendarme de l'Afrique, avant qu'on entre dans le vif du sujet?
Bon, confirmer le rôle de gendarme, je ne sais pas, mais il faut faire face à un état de carence stratégique et organisationnelle, de l'échec ou de la non-application de l'architecture africaine des défenses. Vous savez que l'Afrique, sur ce point-là, a défini une politique africaine commune de défense et de sécurité, qui devait être soutenue dès 2002 par une force africaine prépositionnée, et avec une force africaine en attente et des brigades régionales. On se rend compte que plus de pratiquement 12 ans ou 15 ans après, nous sommes nulle part. Nous sommes nulle part. Et entre-temps, l'Afrique est transformée en un foyer permanent de conflits, aussi bien la zone du Nord avec tout ce qui se passe en Égypte et tous les soubresauts de la révolution des printemps arabes, au niveau de l'Europe, de l'Afrique occidentale. Nous avons connu la situation de la Côte d'Ivoire, et nous venons de connaître la situation de Mali. En Afrique orientale, il y a la situation de la Somalie et de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Chez nous, point de besoin de vous dire la situation qui se passe à l'Est. Et en Afrique australe, on a des inquiétudes au niveau de Mozambique. Donc, face à cette situation de crise, l'Afrique n'a pas de réponse. Et très souvent, c'est la France ou d'autres structures, essentiellement la France, qui a des intérêts plus ou moins historiques en Afrique, qui est intervenue aussi bien en Côte d'Ivoire, au Mali et tous ces deux jours en Centrafrique. Donc, la faiblesse de l'État africain lui-même, un État en faillite, incapable de mettre en place des structures de défense compétitives et efficaces, et au niveau de l'Union africaine, l'absence de politique de défense et la mise en place de cette architecture de défense qui a été conçue, font que ces vides sont complétés par des structures telles qu'Africom, mais dont le concept opérationnel est très difficile à cerner. Et l'État français, or l'État français n'a pas tous les moyens, donc la France appelle l'Afrique à développer son concept, à l'aider à monter, à former, mais la France n'a pas tous les moyens, donc elle doit recourir à la communauté internationale et à l'Union européenne. Donc voilà la situation, donc les vides stratégiques et capacitaires de l'État africain en matière de défense, et les vides stratégiques et les capacités de disposer d'une vision et de moyens au niveau de l'Union africaine qui font que des pays comme la France sont obligés d'intervenir, malgré eux parfois, pour des situations aussi complexes qu'en Côte d'Ivoire, où ils viennent de perdre donc deux soldats.
Alors professeur, ce sommet relance-t-il la France-Afrique d'après vous?
La France-Afrique, ces mythes peuvent exister ou ne pas exister. Mais le problème, c'est que si vous avez des troubles à l'Est et que vous avez vous-même des difficultés à faire le travail, vous êtes obligé de recourir à des superfiges ou à des moyens autres tels que la brigade internationale. Mais si vous faites vous-même le travail comme viennent de faire les forces armées, ben, vous n'avez pas besoin de ces apports. Si l'État malien existait, la France ne serait pas venue. Parce qu'il se développe des zones de terrorisme, de trafic de drogue, qui ont un impact sur les autres pays, y compris la France qui reçoit toute la misère africaine. Donc vous ne pouvez pas empêcher un État de développer une stratégie internationale de prévention des conflits qui peuvent perturber, n'est-ce pas, son espace interne.
Donc, merci, professeur.
Il ne faut pas faire la mythologie autour de la France-Afrique. Il faut plutôt prendre ses responsabilités en tant qu'État et en tant qu'Africain.
Merci, professeur. Jean-Jacques Ouondo, vous êtes analyste politique et expert en questions militaires. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Nous sommes encore sur les considérations générales. Jean-Jacques Ouondo, comment vous avez accueilli l'organisation de ce sommet?
Permettez-moi d'abord de saluer Maître Nkoulou et le professeur Jacques Joly.
Maître Mbouyou.
Maître Mbouyou plutôt, je pense, excusez-moi. Voilà. Et le professeur Jacques Joly. Je pense que la première observation qu'on peut avancer par rapport à cette proposition de la France est un constat. Je pense que le professeur Jacques Joly l'a quelque peu explicité. C'est un constat d'échec pour les dirigeants africains dans leur rôle, dans leur mission de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des États stables, performants et souverains. Pour la simple raison que 50 ans après l'indépendance, on se rend compte que l'Afrique, qui était plus ou moins prospère à l'ère de l'indépendance, est aujourd'hui transformée en un champ de bataille où les dirigeants africains se sont montrés incapables de pouvoir doter ces États d'une des composantes qui fait que l'État existe, ce qu'on appelle l'armée, la composante monopole légitime de la violence. Et je pense que sur ce point, c'est la première observation, au-delà de toute considération hégémonique ou géostratégique qu'on peut avancer par rapport à l'idée de la France, par rapport à la proposition de la France. Je pense que, au-delà même de la notion de la France-Afrique, qui est un concept psychologique et politique sans pouvoir le concrétiser matériellement, je pense que le premier constat serait d'abord de constater cet échec dans le chef des Africains, dans leur incapacité de pouvoir doter l'Afrique des États performants.
Alors, toujours dans les considérations générales, je disais tout à l'heure que ce sommet a aussi fait allusion au climat et à l'économie. Jean-Jacques Ouondo, l'Europe ne voudrait-elle pas, là, à travers la France, se rattraper par rapport à tout le gâchis apporté à la planète?
Se rattraper, non, mais je pense que par rapport à la situation climatique, vous savez qu'il y a une sorte de système de crédit où les États peuvent acheter des crédits auprès de certains États qui sont moins pollueurs. Et dans ce cadre, certains États sont en train de développer des stratégies de mutualisation pour pouvoir compter sur certains pays de sorte à pouvoir gérer leur surplus dans l'utilisation du carbone ou des gaz toxiques. Donc, et de l'autre côté, il faut dire aussi que l'Afrique restera toujours un enjeu économique et devient davantage un enjeu économique pour la simple raison qu'aujourd'hui, on parle de la malédiction des ressources naturelles de l'Afrique. Partout, on trouve des ressources naturelles et paradoxalement, ce sont des zones où on retrouve aussi des situations de conflit. Mais pour revenir à une considération de départ, expliquer un peu quelles sont les raisons, les impératifs pour lesquels la France a opté pour ce choix. Il faut se dire qu'il y a trois impératifs majeurs que je peux résumer en géostratégique, en économique, dans la course à l'accès des matières premières et en contexte budgétaire qui impose l'austérité à la France. Géostratégique, il faut dire que c'est une géostratégie de la France qui reste traditionnelle, ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique, une France qui était assurée une certaine tutelle de l'Afrique. Et maintenant, la France, via le François Hollande, qui veut couper cette idée de la France-Afrique paternaliste, veut développer un partenariat avec une Afrique responsable. Ce qui explique que dans ce processus de rénovation de la politique africaine, la France veut plutôt que l'Afrique puisse se prendre en charge. Ça, c'est sur le plan géostratégique. Sur le plan économique, on voit que l'Afrique aujourd'hui n'est plus ces domaines de chasse gardée de la France. On voit de nouveaux acteurs, notamment les pays émergents et les États-Unis qui sont de plus en plus intéressés dans cette zone. Et la France, progressivement, perd du terrain sur l'Afrique. Il est important pour la France, dans sa politique extérieure, de pouvoir développer de nouveaux mécanismes pour pouvoir rester présent dans ces pays, dont certains pays qui échappent notamment à son contrôle, comme la République centrafricaine, où on a vu l'Afrique du Sud qui était assez présente il y a quelques mois. On voit tout doucement la France essayer de récupérer ce qu'elle peut dans ces territoires qui l'échappent. Et enfin, contexte budgétaire pour la France qui était présente militairement un peu partout en Afrique. Mais aujourd'hui, la France vient de voter ce qu'on appelle une loi de programmation militaire qui prévoit une suppression de 33 000 postes. Et dans cette loi, il est question pour la France d'adapter aussi sa stratégie militaire en Afrique en essayant de mutualiser aussi les efforts sur le plan africain, au lieu que la France soit présente avec des troupes qui sont onéreuses quand on les déplace de la France en Afrique. On préfère plutôt travailler avec des forces africaines pour pouvoir les aider à trouver leurs solutions.
Voilà, Maître Jean Bouyou, François Hollande qui déclare à l'issue de ce sommet que l'Afrique doit assurer sa propre sécurité en mettant en place une force d'intervention rapide. Il y a la situation en RDC, la situation au Mali, la situation en République centrafricaine. Toutes ces situations sont élogieuses. L'Afrique en a-t-elle les moyens et à quel prix est-ce possible? Quelle est votre analyse?
Oui, je crois que c'est ça la question qui dérange. L'Afrique a-t-elle les moyens de répondre à une autodéfense, il faut ainsi dire, une défense assurée par elle-même? Nous avons vu dans le cas de l'Union africaine, lorsqu'il a fallu déployer des forces au Tchad ou ailleurs, cela a pris des mois, même ce qui concerne le Congo. Toutes les bonnes décisions ont été retardées parce que, disait-on, il n'y avait pas assez de moyens, il fallait attendre de nouveau que ce soit l'Union européenne qui le donne, les Nations unies, ainsi de suite. Peut-on se défendre adéquatement avec toutes les exigences des armes modernes, des moyens de communication de guerre, et ainsi de suite, si on n'a pas les moyens? Peut-on assurer une guerre si on est soi-même affamé, si on ne sait même pas quitter son campement pour marcher 10 kilomètres. Si on ne sait pas d'où vient la balle parce que les autres peuvent faire pleuvoir d'en haut et de loin des milliers d'obus. Donc il y a quand même cette question qui appelle à se demander, est-ce vraiment sérieux de demander à des pays sans moyens d'assurer eux-mêmes leur propre défense? Autrement dit, est-ce que ceux qui le disent sont naïfs? Ne cache-t-il pas quelque chose? Ne refuse-t-il pas de donner ou d'aider ces pays de manière directe à se constituer en une force, mais qu'ils veulent réserver leur capacité de venir au secours avec évidemment toute la conditionnalité qui entoure ce genre d'intervention? Donc l'expression aider l'Afrique à assurer elle-même sa sécurité est assez ambigu lorsqu'on sait que l'Afrique n'a pas ses moyens.
Et en d'autres termes, la France ne serait-elle pas en train de se moquer finalement carrément de l'Afrique?
Non, je crois que c'est pas se moquer de l'Afrique. Je crois que M. Jean-Jacques Condo a bien dit tout à l'heure en évoquant les questions de géostratégie, notamment ils font partie d'une certaine politique internationale, pas seulement de la France, mais cela des États-Unis, c'est le cas de l'Union soviétique ou de la Chine. Donc il y a là, je pense, derrière le rideau, les vrais buts qui ne sont pas affichés, qui ne sont pas mis sur le tableau, mais qu'on peut supposer, qu'on peut connaître. Et donc là, on ne peut pas non plus se leurrer en disant oui, c'est vrai, ils vont assurer, nous aider à former nos soldats. Et il y a là toute une stratégie derrière, sur laquelle d'ailleurs j'ai vu la précaution des présidents africains qui ont participé à ces assises à ne répondant pas assez ouvertement à cette proposition. Voilà ce que je veux dire.
Voilà, Maître Mbouyou, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient d'Isiro, en province orientale.
Maître Jean-Pierre Goumenote à Isiro, province orientale. L'Afrique peut bien s'organiser pour assurer sa sécurité, mais tant que ce n'est pas encore l'option de la communauté internationale, il y aura toujours l'insécurité en Afrique, car c'est la communauté internationale qui a les derniers mots au mépris de la souveraineté des pays africains. Pour moi, la déclaration de François Hollande reste encore verbale. Qui vivra, verra.
Réaction, Maître Mbouille. Je vous vois sourire.
Oui, je crois qu'il le dit de manière assez directe et brusque. Ça rejoint plus ou moins parce que à quoi je faisais allusion tout à l'heure, effectivement, de dire on ne sait pas ce qu'il y a derrière le rideau lorsqu'on nous fait de telles offres, de telles propositions. Il est vrai que ça fait beau, mais bon, qui vivra verra.
Et donc, comme je le disais, la France ne veut-elle pas se présenter sous le jour du sapeur-pompier qui demande aux gens qui n'ont pas le moyen de s'organiser, mais après quand ça barde, on vient en sauveur?
Bon, un peu, hein, parce qu'en en géopolitique internationale et en géostratégie, il y a deux pôles importants. Un pôle, c'est les États-Unis, l'autre pôle, c'est la France. Et moi, cette réunion m'a fait sentir comme s'il y avait un retour sur scène international de la France en tant que une sorte de pôle géostratégique de l'humanité. Retour qu'on a quand même assez, je dirais, regretté, mais disons qu'on a remarqué. On a remarqué durant la période de Sarkozy qu'il y avait comme une sorte d'inféodation totale de la France du côté américain. Et aujourd'hui, Hollande présente une certaine image de différence en disant non, nous ne sommes pas si inféodés que ça, nous restons toujours un pôle différent et un pôle pour la stratégie mondiale. C'est ce que j'ai pu pressentir et même ressentir après la rencontre de Paris.
Professeur Jacques Joly, est-ce sérieux de demander aux gens qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge d'Exit Maître Mbouyou? Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, je crois que il y a consensus là-dessus. Il faut d'abord se dire que la politique de défense ou la vision géostratégique d'un État, commencé par la France, ne se définit pas simplement sur le plan militaire. Donc, le volet stratégique, le volet défense et militaire participe à une vision. La France a fait d'abord l'étape que cette Afrique-là, malgré tous ces conflits, c'est le continent d'avenir. C'est là où il y a le plus grand de ressources naturelles, les plus grandes réserves, notamment de minéraux stratégiques tels que l'uranium, le pétrole, et la France a beaucoup plus de facilité, n'est-ce pas, d'accéder à ces marchés. Donc, il y a un problème de marché. Et la France a fait l'analyse. Quand vous voyez les documents d'Hubert Vetrine qui a été publié, n'est-ce pas, avant le sommet, et sur les 10 propositions, 11 il fait, il constate que l'Afrique, malgré la toile de pauvreté, constitue une zone maintenant des forces d'investissement de la Chine et d'autres pays. Et la France, qui il y a 50 ans était le premier partenaire économique de la France, a reculé. Or, la France est un pays qui est presque en récession. Les taux de croissance ne dépassent pas 1%, c'est 0,5%, et ils s'en félicitent, alors qu'en Afrique, on atteint, comme en République démocratique du Congo, le 8%. Et l'Afrique a de nouveaux partenaires, notamment les États du BRIC, donc le Brésil, l'Inde, la Chine. Et la France a donc, pour combler cette contraction économique, veut regagner le marché africain. Et à l'occasion, offre, n'est-ce pas, sa contribution en matière soi-disant de défense, mais ça risque d'être du vent, parce que la France n'a pas totalement le moyen. Mais il vend un discours qui a fait ses preuves, notamment au Mali, mais vous savez qu'ils sont partis au Mali parce qu'il y avait des otages français dans cette zone, et ils sont allés à Côte d'Ivoire parce qu'ils ont des intérêts économiques en Côte d'Ivoire, et ils veulent agir aussi, n'est-ce pas, en Centrafrique pour réaffirmer leur rôle au sein du Conseil de sécurité. Donc,
professeur,
l'intervention ou les probables stratégies de gesticulation réelles ou fausses de la France sont dictées par les intérêts stratégiques de la France.
Professeur.
Donc, il
ne
faut pas se leurrer. Il ne faut pas aller là-bas comme des enfants de cœur pour croire que les Français sont des amis. Oui, eh ben, ils sont des amis, mais ils viennent aussi en amis qui ont des intérêts.
Professeur Jacques Joly, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Kaneba Godefroy depuis Goma au Nord Kivu, malgré le caractère salutaire de l'idée émise par le président français, monsieur François Hollande, mais sa matérialisation me paraît comme un véritable rêve, car présentement l'Afrique est dépourvue d'un leader capable de fédérer tous les dirigeants africains afin de concrétiser cette idée meilleure, à moins que Mandela, dont nous déplorons la disparition éternelle, soit ressuscité une fois de plus. Malheureusement, c'est une chose impossible.
Voilà. Voilà, professeur, à part les problèmes des moyens que vous avez aussi évoqués, Kaleba, que nous venons de suivre depuis Goma, évoque le problème des leaders, d'un leadership africain. Finalement, le problème n'est-il pas aussi au niveau des leaders, des chefs d'État qui ont du mal à s'organiser? Là, il citait Mandela.
Oui, tout à fait. Je crois qu'au début de mon intervention, je vous ai parlé du caractère assez spécifique des États africains, qui sont des États faillites ou des États, comme a dit Maître Mbouyou, qui n'ont pas suffisamment de moyens. Mettre en place une armée exige des moyens, mais demande aussi une vision politique. L'armée n'est qu'un outil, un instrument au service de la politique. Lorsque vous avez des politiques restrictives en matière de gouvernance, de respect des droits de l'homme, donc de convergence entre les intérêts de la population et les intérêts des dirigeants, vous avez nécessairement des armées qui sont très faibles, des armées qui sont introverties, c'est-à-dire qu'au lieu de défendre le territoire, ce sont des armées tracassières qui sont incapables de faire face même à un petit coup de mouche d'un groupe armé de 200 ou 300 personnes. Donc c'est ça la problématique. Ensuite, au niveau de l'Afrique, il n'y a pas une volonté globale d'asseoir une véritable union africaine en termes de vision. C'est comme ça que notre ami pleure Mandela, mais Mandela a souffert pour imposer ses visions aussi bien au Burundi, au Congo, ailleurs. Et l'Afrique du Sud a connu beaucoup de déboires, notamment en Centrafrique, où son armée a été, n'est-ce pas, pratiquement battue par ces rebelles de Sénéca qui l'ont chassé. Ils n'ont pu trouver refuge au RNDC. Donc il y a le problème de volonté, mais il y a aussi un problème de capacité. L'opérationnalisation de la force africaine, je vous ai dit que ça date depuis 2002. Et en 2003, on a parlé, n'est-ce pas, de la mise en place, n'est-ce pas, des forces africaines d'attente.
Merci, professeur.
Ou même d'un comité d'état-major. Depuis 2003, nous sommes en 2013, l'Afrique n'est pas capable de le faire.
Merci, professeur. Parce que... Donc, l'Afrique n'est pas capable de le faire, de s'organiser. Je vous redonne la parole tout à l'heure, professeur. Jean-Jacques Wondo, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Placide Mutombo de Lubumbashi au Katanga. À mon avis, la sécurité en Afrique doit être organisée par les États africains en mettant sur pied une force militaire d'intervention rapide, comme l'a préconisé le président Hollande. Maintenant, je me pose la question, est-ce que les Africains ont-ils la possibilité et la volonté de le faire? Sur le plan développement et partenariat économique, les États africains doivent diversifier les relations bilatérales sud-sud et ne pas toujours rester cramponnés au partenariat avec l'Europe où les rapports de force dans les échanges économiques sont souvent en défaveur des pays africains. Quant au réchauffement climatique, l'Europe, très industrialisée, a une grande part de responsabilité et doit indemniser l'Afrique en contribuant aux efforts consentis par celle-ci dans la prise en charge de ces fléaux.
Jean-Jacques Wondo, il met l'accent sur le fait qu'il faudrait encourager la coopération sud-sud, mais est-ce que sur le plan sécuritaire, c'est possible? N'essaierons-nous pas là dans un cas de figure où un borgne conduirait à un aveugle?
Pas tout à fait, mais j'aimerais revenir vraiment sur la question centrale de savoir si c'est capable pour l'Afrique de pouvoir mettre sur pied une force pouvant intervenir en cas de conflit. Moi, je pense que avec les différentes interventions, on a eu quelques éléments de solution. Le problème d'abord, qui, comme on le dit, le problème de l'armée reste d'abord un problème politique. C'est une question de volonté politique. Dire que l'Afrique manque de moyens, moi je n'y crois pas, mais c'est plutôt manque de volonté politique pour pouvoir mettre en place une politique de sécurité commune et aussi de l'appliquer. Depuis 2003, il y a des choses qui ont été, des idées qui ont été émises, mais aujourd'hui, leur matérialisation devient impossible parce qu'il n'y a pas de volonté de pouvoir créer ces armées. Et d'ailleurs, dans les simulations qui ont été faites, on parle de 20 000 personnes qui constituent 5 brigades autour des 5 pôles régionaux de l'Afrique, une brigade de 3 à 4 000 personnes. Et je pense que des pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud ou les pays comme l'Égypte, l'Algérie ont suffisamment de budget, de moyens pour pouvoir doter cette armée d'outils capables. Mais quant à la question de pouvoir développer, privilégier les relations sud-sud, moi je pense que le plus important c'est d'abord définir ce qu'on appelle la doctrine de l'emploi des forces. C'est-à-dire une fois qu'on se met d'accord sur cette force, on demande quels sont les objectifs assignés à cette force, quels sont les moyens dont il faut pour développer cette force, et on verra autour des partenaires de la paix quels sont les pays les mieux lotis, qui sont prêts à pouvoir nous apporter cette aide logistique ou matérielle capable de répondre à nos préoccupations. Parce que quand on demande un développement sud-sud, ben je peux le dire que la plupart des pays développent déjà ça. Aujourd'hui, l'Angola vient de commander pour $1 milliard de matériel militaire à, je dirais pas sud, mais à la Russie. Vous verrez par exemple que le Congo développe aussi certaines coopérations avec des pays comme la Biélorussie ou la Chine qui devient présente aussi dans certains pays d'Afrique. Mais le tout, c'est de ne pas privilégier dans une sorte de, nécessité politique, mais plutôt définir ce dont nous avons besoin, quelle politique, quelle doctrine militaire nous avons besoin. Tant qu'à cette force africaine, l'idée n'est pas neuve. On se rappellera que déjà l'année passée, il y a le président Zuma qui a émis cette idée en proposant même des pistes sérieuses. Parce que le président Zuma, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que les Africains puissent être capables de pouvoir régler leurs problèmes entre eux-mêmes. Et je vous verrai même que dans cette proposition de Hollande qui devant certains Zuma, il y a eu une certaine friction. Le président Zuma qui devait aller à Paris s'est abstenu en dernière minute d'aller en Paris, à Paris parce qu'il a prétexté d'autres raisons. On sent que derrière les enjeux, voilà, il y a des enjeux géostratégiques majeurs autour de cette force et je pense que l'Afrique, avec une bonne volonté, est capable de pouvoir mettre en place cette force.
Maître Jean Bouillou, je reviens sur la réaction de Maître Jean-Pierre Gouménoté qui disait « L'Afrique peut bien s'organiser pour assurer sa sécurité, mais tant que ce n'est pas l'option de la communauté internationale, il y aura toujours l'insécurité en Afrique. » N'a-t-il pas raison quelque part?
Je dois ne pas aller par quatre chemins pour dire que c'est l'une des grandes problématiques. Est-ce qu'on peut laisser l'Afrique s'organiser? Non, personne ne va le faire, et personne d'ailleurs n'a intérêt à le faire. On est toujours, lorsqu'on est en position de force, on veut maintenir les autres dans une position inférieure. Mais M. Rondo vient d'évoquer une question assez intéressante, notamment sur l'Angola qui vient de consacrer $1 milliard à l'achat du matériel militaire. Moi, toute la question sur le matériel militaire qu'il faut acheter par les Africains, toute la question demeure à savoir, peut-on laisser des milliers de citoyens dans son pays mourir de faim pour s'équiper militairement? Et le cas le plus flagrant, le plus récent, c'est la Libye. Kadhafi, je crois, c'était le premier acheteur d'armes de tous les pays africains, et il consacrait tout ce qu'il pouvait, peut-être hormis l'Afrique du Sud. Mais lorsque on a décidé de démanteler sa réserve, je pense qu'on a vu ce qui s'est passé, on s'est dit, mais finalement, toutes les armes qu'il achetait, ça servit à quoi? Lorsque l'Iran, ça je me transpose un peu en Asie, a justement dépensé des milliers de dollars pour mettre au point son nucléaire, et qu'on a décidé de le démanteler, personne ne paye ce prix-là. Que deviennent tous ces citoyens qui sont clochardisés, qui sont malades, qui sont affamés, lorsque les pays décident de prendre l'essentiel de revenus pour le consacrer à l'armement? Alors qu'on sait que ceux qui vous vendent des armes peuvent être les premiers, justement, à les démanteler, à vous ramener à zéro. Je crois que d'ailleurs dans les cas de l'Iran comme de la Libye, il a été question de savoir comment on peut rééquiper encore ces armées. Donc je crois que, d'une part, il est vrai que c'est important qu'un pays soit défendu. D'autre part, la modernisation pose aujourd'hui la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine que pour les menus budgets que nous avons en Afrique, d'aller encore les dépenser dans l'armement.
Mais avec ces menus budgets, Maître Mbouyou, Jean-Jacques Wondo et Professeur Joly ont insisté sur le problème de la vision politique. La vision politique, l'absence même de volonté en Afrique de s'asseoir, d'asseoir véritablement une union africaine. Le problème de vision politique, on a vu le cas du président Bozizé en Centrafrique, qui n'avait presque pas d'armée, et c'est le cas pour beaucoup de pays. Comment vous répondez à ça?
La question de vision politique m'embarrasse un peu. M'embarrasse un peu parce que il y a des mots auxquels on ne donne pas de contenu. La plupart des pays et des élus dans les systèmes démocratiques ont réellement, disons, une certaine vision. Mais cette vision doit être soutenue par des moyens. Il n'y a pas question de dire nous avons une vision alors qu'on n'a pas le moyen de la soutenir. Je prendrais un pays comme le Zimbabwe, qui, malgré la faiblesse des moyens, a réussi quand même à se défendre contre une pression assez forte, comme celle de la Grande-Bretagne. Là, on peut dire, oui, c'est vrai, le fait de conduire une politique de rester ferme et de rester unie peut amener un pays à se défendre malgré la pression. Mais il faut aussi ajouter que le Zimbabwe a été aidé par l'Afrique du Sud, qui a refusé d'adhérer à ce programme de Tony Blair, notamment. Donc, parler de vision politique, il faut donner un contenu, parce que le mot vision peut paraître parfois rare selon qu'on est du côté de l'opposition ou du pouvoir. Est-ce qu'on va voir la question de la vision dans un sens politique ou dans un sens, comment dirais-je moi, matériel, réaliste? Je donne pas, je comprends pas très bien cette question de vision politique. Merci. Et je veux pas m'y attarder.
Voilà, professeur Jacques Joly, nous allons avancer dans ce débat. Il y a également une question importante dont on ne parle pas souvent, qui fait de plus en plus l'actualité en Afrique, c'est la montée du terrorisme. Professeur, comment vous expliquez la montée de ce phénomène en Afrique?
Avant d'abord d'arriver à la question du terrorisme, il est important que nous puissions, comme a dit le maître Mbouyou, qu'on revienne sur la question de la vision. Vous savez, la politique de défense fait partie de la politique globale de sécurité, qui comprend une dimension politique. Quelle armée, pour quel État et pour quel type de régime? C'est ça la question fondamentale, parce que si on ne sait pas pourquoi on a l'armée, l'armée peut même devenir, n'est-ce pas, un danger pour le régime, et on arrive, n'est-ce pas, à cannibaliser l'armée, à la fragiliser, pour qu'elle ne puisse pas être un ennemi intérieur. Et à ce moment-là, on oublie des problèmes de défense de frontières. Okay? Donc, c'est déjà à ce niveau-là. Pour définir une armée républicaine, il faut d'abord être convaincu que nous voulons instaurer une république, une démocratie, et l'armée va alors, n'est-ce pas, venir soutenir les valeurs républicaines. Mais si dès le départ, il n'y a pas clarification sur le rôle de l'armée, sur son rôle politique, sur son travail de défense, eh bien, nous avons toute cette désarticulation qui pose problème. Alors, l'armée, donc la défense militaire est liée à la dimension politique, donc à la stabilisation politique institutionnelle, à la question de la vision économique de développement, aux questions sociétales et autres environnementales. Donc c'est un tout. Partant de cela, nous arrivons à la question du terrorisme. Il y a effectivement un problème de terrorisme. Il y a des dangers de terrorisme, par exemple, à l'est du Congo, avec les Shebab qui peuvent, n'est-ce pas, venir de la Somalie et des autres. Mais tout part d'abord de la fragmentation de l'État somalien. Et cette fragmentation pose un problème qui, n'est-ce pas, atteint toute l'Afrique de l'Est et arrive au Soudan, qui développe une autre idéologie. Merci. Donc c'est tout cela. Et à partir de ce moment-là, l'Afrique devient un foyer qui alimente le terrorisme d'ailleurs et d'ici. Donc la question du terrorisme est réelle, c'est lié, n'est-ce pas, aux appendices d'Al-Qaïda et des autres branches comme El Shabab. Il y a aussi l'émergence des trafics de drogue
et d'autres trafics d'êtres humains et autres.
Merci, donc, professeur. Jean-Jacques Wondo, je signale en passant qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Peut-on mettre un jour fin au terrorisme en Afrique?
Ben, je pense que pour mettre fin au terrorisme, il faut d'abord doter l'Afrique des États constitués normalement, c'est-à-dire avec ces composantes qu'on appelle les organes censés exercer le monopole de violence légitime. Et pour la simple raison que aujourd'hui, la sécurité reste intimement liée au développement. Et ça, j'essaie de répondre à l'ambassadeur Mbuyu. Pour lui dire que on ne peut pas aujourd'hui appeler au développement des États dans un environnement sécuritaire faible ou instable. Et toutes les études, toutes les recherches démontrent que plus un pays est faible sécuritairement, plus ce pays est sous-développé. Donc, si nous devons faire le calcul, il faut d'abord commencer par fonder les bases, les fondations d'une société, par la sécurisation de ces États. Et ces États seront capables par la suite de pouvoir défendre leur territoire, notamment par rapport à l'avancée de l'islamisation. Aujourd'hui, ils sont signalés au nord-est de l'RDC Congo pour la simple raison qu'il y a la porosité des frontières. Pourquoi il y a cette porosité? Parce que nous ne disposons pas suffisamment des éléments capables de contrôler l'intégrité territoriale. Donc je pense que pour pouvoir faire face à cela, il faut d'abord commencer par la base, mettre en place l'État et ses structures capables de pouvoir défendre l'État contre l'ordre extérieur, contre les menaces extérieures.
Et donc, puisqu'il faut conclure, Jean-Jacques Wondo, comment l'Afrique doit-elle envisager sa sécurité en guise de conclusion?
Mais l'Afrique doit d'abord essayer de voir, de pouvoir se constituer comme étant une communauté. Aujourd'hui, par exemple, au sein de l'Union européenne, ils ont créé la politique européenne de défense commune. Mais il est temps d'abord que l'Afrique se considère comme étant une communauté, avec une communauté de vues, une communauté de valeurs et une politique commune qui permettrait à l'Afrique de pouvoir fédérer certains États à l'idée de l'idée émise par le président sud-africain Jacob Zuma pour mettre sur pied des organes pouvant permettre à l'Afrique de pouvoir sécuriser ces zones de conflit.
Merci Jean-Jacques Wondo. Je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en questions militaires, également auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Maître Mbuyu, comment l'Afrique doit-elle envisager sa sécurité, de votre point de vue?
De mon point de vue, l'Afrique doit d'abord savoir que la sécurité est une donnée progressive. On ne peut pas l'organiser en un. Et on devrait pour ce faire s'inspirer de toute l'évolution de conflits en Occident depuis les 20 États du Moyen-Âge jusque, disons, depuis les guerres de l'Antiquité, les guerres des cités, les 20 États du Moyen-Âge jusque à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été un cheminement ardu, laborieux. Et l'Afrique, en fait, ne saurait pas y échapper. On ne peut pas le faire d'un coup de bâton. Dans ce sens, il faut continuer à renforcer l'Union africaine. Il n'y aura pas d'issue d'un cheminement commun sans un lieu de rassemblement. Et ce lieu existe déjà. C'est l'Union africaine et qui a eu toute une commission qui est chargée de cette question de défense, et je pense qu'on devrait, au sein de nos États, lutter pour un renforcement de ces rencontres africaines de défense commune.
Merci, maître Jean Mbuyu. Je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle et ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Professeur Jacques Joly, un mot en guise de conclusion.
Mais la défense et la sécurité africaine doit être repensée au niveau de la vision qu'on a de l'État. Quel État, et à partir de la redéfinition de l'État, de la restauration, comme on dit ici chez nous, de l'autorité de l'État, de la cohésion nationale, définir maintenant les types d'armée nationale et cette armée nationale républicaine professionnelle.
Merci.
Dans une région démocratisée où les démocraties ne se font pas la guerre, nous n'allons pas avoir des États à vocation fasciste qui vont commencer à nous déranger.
Merci professeur Jacques Joly. Je rappelle que vous êtes sénateur de l'opposition et vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.